Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Eh bien, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, un remarquable ouvrage, un des meilleurs essais que je vous ai présenté en 2026. Non que les autres n'étaient pas remarquables, mais celui-là m'a vraiment frappé. Alors nous partons aux USA avec, et c'est le titre, « Les Lumières sombres », sous-titré « Comprendre la pensée réactionnaire », sous la plume d'Arnaud Miranda, publié à la NRF Gallimard « Le Grand Continent », je vais vous expliquer ça, 263 pages, 18 euros, et c'est tout récent, puisque c'est sorti en février 2026, et je suis sûr que vous en avez entendu parler, parce que c'est un livre qui a eu un certain retentissement, et très franchement, il le mérite. Alors, je disais qu'il a été écrit par Arnaud Miranda, qui est un jeune homme, il est né en 1997, il est docteur en théorie politique associé au CEVIPOF, qui est le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Il a obtenu le prix Jeune Chercheur de la Fondation d'Étreil en 2024 pour sa thèse d'histoire des idées politiques qui était intitulée « Les pensées contemporaines de la décadence, un imaginaire antidémocratique ». Donc docteur en théorie politique, fonction de maître de conférences sciences politiques et philosophiques. Ses recherches actuelles concernent la circulation internationale des idées néo-réactionnaires. Il est également titulaire d'une licence de philosophie à la Sorbonne et du Collège universitaire de Sciences Po. Donc vous voyez que c'est un garçon qui a un bon bagage. Il enseigne depuis 2019 l'histoire des idées politiques et la philosophie à Sciences Po, à l'Université Versailles-Saint-Quentin, à l'Université catholique de Paris, et il est également chercheur invité à l'Université d'Oxford, ainsi qu'au département police de l'Université de Cambridge. Donc un garçon qui a un bagage extrêmement sérieux. L'éditeur, eh bien écoutez, l'éditeur, c'est cette nouvelle collection de la NRF, Bibliothèque de géopolitique, lancée par Gallimard, qui, je crois que c'est venu du fait de Donald Trump et de sa politique du coup d'éclat qui précipite un peu, nous précipite dans un nouveau monde plus incertain, plus dangereux. Et donc Gallimard a lancé cette collection Bibliothèque de géopolitique, dirigée par la responsable du département connaissance de la maison, qui s'appelle Sophie Cuyo-Yanis, et puis également Gilles Gressani, qui est à la tête de la revue Le Grand Continent. Donc ce sont les deux responsables de cette bibliothèque de géopolitique, donc Gallimard, hein, maison prestigieuse, très ancienne, on en parlait déjà en 1919, ça s'appelait les éditions de la Nouvelle Revue Française. Donc aujourd'hui, la maison d'édition a été fondée d'ailleurs en 1911 et le groupe Gallimard est toujours dirigé par un des descendants, en l'occurrence Antoine Gallimard. C'est une maison des plus sérieuses, des plus prestigieuses, considérée comme l'une des plus importantes et influentes maisons d'édition en France, notamment pour la littérature du XXe siècle, littérature contemporaine aussi, et Gallimard est diffuseur en 2011 d'un catalogue comprenant 38 prix Goncourt, 38 écrivains ayant reçu le prix Nobel et 10 récompensés par le prix Pulitzer. Donc vous voyez que la maison comprend des gens qui sont aussi prestigieux qu'elle. Elle fait partie du groupe Madrigal, c'est le troisième pôle éditorial français. Alors je parlais du Grand Continent auquel appartient Gilles Gressani, qui est à la tête de cette nouvelle collection. Donc le Grand Continent, c'est une revue qui a été créée par ce Gressani, qui est franco-italien, je crois, créé en avril 2019. Ils étaient trois quand ils l'ont créé. Il y avait Ramona Bloge et Matteo Malik. Et c'était édité par le Laboratoire d'idées, groupe d'études géopolitiques, une association fondée à l'École normale supérieure par des élèves qui étaient en scolarité, qui se sont donnés pour objectif de penser le monde et les relations internationales à l'échelle de l'Europe. Alors, c'est publié en français, en espagnol, en italien. Je crois qu'ils veulent lancer une édition anglophone, allemand, polonais, etc. Donc, beaucoup voient dans le grand continent la prolongation, la relève des revues très intellectuelles comme Esprit, comme la Revue des Deux Mondes ou Le Débat. Et en 6 années d'existence, le grand continent est devenu la revue européenne de référence pour penser un monde en plein basculement. Alors revenons à notre essai « Les Lumières sombres » dont je vais vous donner lecture de la 4e de couverture. Au cours des années 2010 et 2020, aux États-Unis, une nouvelle contre-culture de droite radicale s'est développée sur Internet. Ses figures centrales comme Curtis Yarvin ou Nick Land écrivent le plus souvent sous des pseudonymes, sur des blogs et sur les réseaux sociaux. Ils ont donné à ce mouvement son nom, la néo-réaction ou encore les Lumières sombres. Les idées qu'ils défendent sont à la fois anciennes et hyper-modernes. Détruire la démocratie, établir une monarchie, diriger l'État comme une entreprise, rétablir les inégalités entre hommes et femmes, affirmer les différences entre patrimoine génétique. D'abord marginaux, ils ont peu à peu obtenu le soutien de certains milliardaires de la Silicon Valley et leur audience n'a cessé de s'élargir depuis. Après la victoire de Donald Trump en novembre 2024, ils estiment avoir désormais les mains libres pour faire de l'Amérique le laboratoire de leurs vœux les plus fous. Cette première analyse met en lumière l'originalité des néo-réactionnaires tout en les inscrivant dans l'histoire longue des idées. Elle donne à lire leurs textes et permet de prendre la mesure de ce qui pourrait bien, si nous n'y prenons garde, devenir notre futur. Alors la table des matières, la table des matières commence, ce qui est logique, par une introduction qui s'appelle « Un mauvais scénario ». Et après, nous avons une cartographie des droites américaines, très détaillée, très importante, une brève histoire de la néo-réaction, et ensuite, il nous parle des hommes qui animent ce mouvement d'idées, le pamphlétaire Curtis Yarvin, le philosophe Nick Land, la galaxie NRX avec un certain nombre de gens très très spéciaux, très particuliers, qui viennent même de la bande dessinée. Les entrepreneurs, Peter Thiel, on en parle un peu ces temps-ci, Marc Andreessen. Et nous terminons par « Et maintenant ?» parce qu'il faut bien se poser cette question, avec une conclusion qui s'appelle « Épilogue, notre grand-mère politique ». Alors, quelques lectures. La première, je l'ai choisie toujours aussi arbitrairement, page 70. Voici ce que l'on y lit. « Ainsi, rien ne sert de convaincre les masses. Il faut élaborer un programme d'action et le promouvoir auprès d'une contre-élite. Ce programme est celui du reset. Il est temps de faire le ménage. Washington a échoué, la Constitution a échoué, la démocratie a échoué. Voici venu le temps de la restauration du salut national, d'une réinitialisation complète. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement, d'un État neuf, d'une élite fraîche qui soit intelligente, forte et juste, plein pouvoir aux pilotes. » Et là, c'est, je vous le citais tout à l'heure, Curtis Yarvin qui s'exprime, un de ces idéologues, de ces néo-réactionnaires. La citation se poursuit par l'auteur Arnaud Miranda qui commente « Pour convaincre cette contre-élite, il faut procéder intelligemment. Les néo-réactionnaires ne doivent surtout pas adopter une stratégie d'activisme démocratique consistant à promouvoir leurs idées dans l'espace public. Selon Yarvin, cette stratégie aurait pour seul effet de renforcer la cathédrale. Au contraire, il prône une attitude de passivisme que son propre travail de blogueur incarne à la perfection. À la différence de l'activiste qui cherche à toucher une masse critique, le blogueur passiviste vise à constituer une élite intellectuelle rigoureuse. » Fermez les guillemets, voilà pour cette première citation. Alors j'ai parlé de cathédrale, ou plutôt Arnaud Miranda parle de cathédrale. On va résumer un peu, de façon un peu simpliste, mais c'est notre système actuel démocratique. Autre citation que je vais chercher beaucoup plus loin, celle-là, à la page 139. Alors, j'ai beaucoup hésité dans le choix de ces citations, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche que, très franchement, on aurait un peu envie de tout citer, mais ce n'est pas possible. C'est le début du chapitre 7, intitulé « Et maintenant ». Les chapitres précédents établissent une première cartographie de la constellation néo-réactionnaire. Ils nous permettent de comprendre plus clairement les positions de ces idéologues qui ont, pour certains, leurs entrées à la Maison-Blanche. À ce stade, j'imagine que le lecteur éprouve une certaine inquiétude quant à l'effet politique du succès des néo-réactionnaires. Les États-Unis risquent-ils de devenir une monarchie ? Est-on en train d'assister à la fin de l'ère démocratique ? Les succès de la néo-réaction ne sont-ils au contraire que le fruit éphémère d'un opportunisme politique ? Ces questions dépassent largement le périmètre de ce livre et, je dois bien l'avouer, de mes propres compétences. Je me déroberai donc avec humilité devant tout exercice de prophétie. En revanche, il me semble possible d'énumérer les enjeux politiques majeurs liés au succès idéologique de la néo-rédaction, plus précisément. Ce succès, ne doit pas être vu comme une simple passade. Ces idées ont précédé Trump et lui survivront, sans aucun doute. Alors, conclusion, bon, vous voyez le ton. Conclusion de l'essai. Alors, ce n'est pas une conclusion, ça s'appelle un épilogue. Un épilogue, alors que nous dit notre auteur Arnaud Miranda ? Eh bien, il nous dit « La néo-réaction apparaît comme une réactivation de la tradition réactionnaire dans un contexte post-libertarien. » Alors, si ces mots ne vous sont pas familiers, il définit tout ça dans son premier chapitre. Il nous parle des néo-réactionnaires qui partagent un même socle théorique, et là, il nous le cite. Il parlait tout à l'heure de frémissement, mais vous allez voir, effectivement, ça en provoque un. L'inégalitarisme, le pessimisme anthropologique, la haine de la démocratie, le refus du libéralisme politique et un optimisme général à l'égard de la technique. Ces convictions convergent vers un projet concret, le renversement définitif, nous dit Arnaud Miranda, du régime politique actuel. Donc même socle théorique et quelque chose d'important sur lequel il insiste, c'est le caractère contre-culturel de la néo-réaction. Il faut, pour bien comprendre le succès, il faut bien voir qu'elle s'est construite sur Internet, en marge des canaux académiques et médiatiques traditionnels, et c'est ce qui lui a certainement permis cette pénétration que l'on observe aujourd'hui. Et donc, Arnaud Miranda nous dit, il y a un véritable retour de bâton réactionnaire dans l'espace politique et médiatique. Alors pourquoi faut-il lire ce livre ? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Ben d'abord, très franchement, et vous l'avez compris, je l'ai déjà un peu exprimé, le travail d'Arnaud Miranda est vraiment remarquable. Sur la forme, c'est clair, c'est documenté, c'est précis, ce n'est jamais pédant, c'est toujours fluide, vivant, pédagogique et, il faut y insister, accessible à tous. Franchement, ça se lit d'une traite. C'est un essai qui nous donne les clés de compréhension de la politique américaine actuelle, de Trump bien sûr, hein, si tant est que l'on puisse comprendre cet homme qui a peut-être du mal à se comprendre lui-même. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que Trump n'est pas un homme seul. Il a dans son entourage des penseurs, des influenceurs, toute une galaxie de libertariens et de néo-réactionnaires qui vont le conseiller si tant est que ce soit possible. Les idées qu'il développe nous ont apparu dans un premier temps totalement folles, voire surréalistes, hein, tant le fossé est grand entre leurs valeurs, vous en avez entendu certaines, et celles de l'Europe. Mais justement, ces idées, d'une part, ne sont pas neuves, elles courent, elles évoluent, elles maturent depuis pas mal de temps. Et d'autre part, il n'y a rien de fou là-dedans, mais des théories parfaitement élaborées qui se diffuse grâce à une utilisation intelligente et réfléchie d'Internet. Des idées qui menacent la démocratie, qui commencent à se répandre ailleurs qu'aux USA, en Europe notamment, en France aussi. Ce corpus d'idées parfaitement structuré, il va à l'encontre de nos valeurs, de ces valeurs qui sont les nôtres, que l'on connaît bien, en premier lieu d'ailleurs celles des Lumières, mais pas uniquement celles-ci. Et il est fondamental de les connaître parfaitement, ces idées, soit pour mieux les combattre, soit pour comprendre tout simplement le monde qui vient. Ce remarquable essai va vous le permettre. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Sacha Gauchy. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.